Écho d'économie.
Un taux de change pour les billets neufs et un autre pour les vieux billets. Le franc congolais s'échange à deux taux différents selon l'aspect des billets, vous l'avez compris. Ça se passe à Goma, au Nord Kivu. Hausse de prix de denrées alimentaires à Mangina dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Principale cause, la multiplication des attaques des rebelles des ADF. L'invité de l'économie, c'est Patrick Kongo, directeur général du Fonds pour l'inclusion financière FPM. Sa structure a obtenu du gouvernement allemand une ligne de refinancement de 20 millions d'euros pour appuyer les PME congolaises. Bienvenue à tous. Parlons d'abord de l'ouverture ce mercredi 10 avril à Kinshasa de la première édition du Forum économique UK-RDC. La délégation anglaise est conduite par deux envoyés spéciaux du gouvernement et de la couronne britannique. 26 grandes entreprises anglaises prennent également part à ces forums aux côtés des acteurs des milieux des affaires en RDC. Au menu, comment assurer un lien solide entre les opportunités qu'offre la RDC et la capacité qu'a le Royaume-Uni à transformer celle-ci en richesse. Selon le ministre Paluku qui a donné le go de ce forum, les secteurs publics et privés sont tous conviés à ces échanges dans une logique gagnant-gagnant entre la RDC et le Royaume-Uni. Stabilité, sécurité juridique, climat des affaires sont passés au peigne fin, a précisé le ministre Julien Paluku, rappelant que ce dernier avait en amont effectué plusieurs missions en Angleterre pour l'aboutissement de ce business forum entre la RDC et la Grande-Bretagne. Au Nord Kivu, la monnaie congolaise, le franc congolais, s'échange à deux taux différents dans la ville de Goma. La plupart des changeurs de monnaie, communément appelés cambistes interrogés, affirment que cette disparité de taux entre les nouveaux et les anciens billets de banque dépend du taux par lequel ils les achètent au niveau de la banque centrale. Gabriel Wamenya, reportage.
Dans la ville de Goma, les nouveaux billets de francs congolais se négocient à un taux inférieur sur le marché d'échange, soit 2600 francs congolais ou parfois 2500 francs congolais, alors que les anciens billets des banques de la même monnaie se revendent au taux normal de 2700 francs congolais. Pourquoi cette disparité du taux d'échange pour une même monnaie? Nous avons contacté le président des rassemblements des cambistes du Nord Kivu, Rakanoki, à ce sujet. Hors micro, le responsable de cette corporation a clairement dit que le problème réside au niveau de la banque centrale. Il affirme que c'est la banque centrale ici à Goma qui vend aux grossistes ses nouveaux billets de banque à un taux inférieur. Conséquence, les cambistes qui évoluent au marché noir, selon toujours ses propres termes, sont obligés de revendre ces nouveaux billets de banque, pour être plus précis, à un taux inférieur que les anciens billets. Toutes nos sollicitations pour avoir la réaction de la direction provinciale de la Banque centrale du Congo n'ont pas abouti.
Dans le territoire de Beni, toujours au Nord Kivu, les habitants se plaignent de la hausse du prix des denrées alimentaires au marché de la commune rurale de Mangina. Principale cause de cette flambée des prix, la multiplication des attaques de rebelles de ZADF qui empêchent la population d'accéder aux champs. Guylaine Kassassia pour les détails.
Un régime de bananes qui s'est vanté il y a un mois à 5 000 francs congolais se négocie actuellement entre 15 et 20 000 francs congolais sur le marché à Mangina. 10 kilos de cossettes de manioc sont vendus à 11 000 francs congolais contre 6 000 francs congolais il y a quelques semaines. La sécurité est à la base de cette situation, comme l'explique Chance Kachuva, coordonnateur du réseau local des acteurs pour la coordination des actions humanitaires et développement.
Actuellement, il n'y a pas l'accès aux champs par la population. Cette situation a poussé la population de mener une vie calamiteuse. Presque tous les denrées alimentaires, les prix ont galopé.
Une situation qui affecte la vie de la population locale, notamment les déplacés. Espérance Massika est mère de 4 enfants et vit à Mangina après avoir fui le village voisin de Mundubiena.
La vie est devenue trop dure ici à Mangina. Les prix ont galopé partout. Nous avons peur de nous rendre dans nos champs à cause de la présence de l'ennemi là-bas. Il n'y a presque rien sur les marchés. Nous manquons de quoi nourrir nos enfants. Nous allons mourir de faim.
Depuis 2 mois, les ADF ont multiplié les attaques à Mangina et ses environs. Cette zone est pourtant considérée comme grenier du territoire de Beni. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
35 millions de dollars américains mobilisés, soit près de 89% des assignations. C'est l'enveloppe globale de recettes du Fonds forestier national FFN pour l'exercice 2023. C'est le directeur général du FFN qui l'a indiqué mardi ici à Kinshasa. Honoré Moulumba Kalala l'a déclaré lors d'une assemblée générale de restitution qui a réuni le personnel et le conseil d'administration de cette structure. Honoré Moulumba Kalala explique dans cet extrait que nous propose Grace Amzati.
Il existe chaque mois ce que nous appelons la réunion générale, qui est statutaire. Et donc, pour ne l'avoir pas tenue, nous avons décidé de le faire aujourd'hui, pour leur parler de recettes, de mobilisation, leur parler d'un milliard d'arbres, leur parler du fonctionnement. Et le bilan est très positif. Le chiffre était à 8% et même 20%. Mais depuis que nous sommes là, le chiffre est à 89% et même à 100%. Nous estimons que ces trois années, nous avons beaucoup mobilisé les recettes. Et lorsqu'on parle de 35 millions, ce n'est pas de l'argent qui est dans les tiroirs, mais c'est une partie d'argent qui part au trésor public en passant par la DGRAD. Donc nous avons plus ou moins eu 14 millions seulement qui est resté au fonds forestier. Et avec cet argent, nous avons essayé d'accompagner le programme des milliards d'arbres du chef de l'État pour que ce programme puisse réussir, comme nous l'avons expliqué. Et voilà donc ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Et nous espérons que les agents ont compris, au-delà de leurs problèmes quotidiens, le taux, le salaire, la rétrocession. Et nous estimons que nous avons épinglé un tout petit peu sur le fonctionnement entre le conseil d'administration et la direction générale, et nous espérons avoir une bonne collaboration parce que c'est dans l'unité qu'on peut travailler pour que le fonds forestier puisse aller de l'avant.
Écho d'économie.
Le Fonds pour l'inclusion financière FPMSA renforce sa capacité à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises. Elle a obtenu du gouvernement allemand, à travers la KWF, la Banque allemande de développement, une ligne de refinancement de 20 millions d'euros. Le directeur général du FPMSA est l'invité de l'économie pour en parler. Patrick Nkongo répond aux questions de Daniel Tambizoni.
Monsieur le DG, bonjour.
Bonjour.
Le FPMSA vient de recevoir de la KfW une ligne de refinancement de 20 millions d'euros. Comment le FPMSA compte-t-il utiliser ces fonds pour dire à qui et à quoi est destiné ce financement?
C'est suite à la crise sanitaire de COVID-19 que le gouvernement allemand, à travers la BMZ, a accordé une subvention au gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour soutenir les MPME impactées par la crise Covid. Et le FPMSA, étant une société financière agréée par la Banque centrale du Congo, dont la KfW, qui est la banque de développement allemande, est actionnaire, a sélectionné le FPM pour porter ses projets. Donc, les bénéficiaires finaux sont des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises qui ont été touchées par la crise Covid. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024, la crise Covid est passée et là, on est en train de voir comment réorienter ces fonds à travers les mécanismes d'impact pour plus d'inclusion financière.
Vous travaillez souvent avec les institutions financières pour atteindre ces micro, petites et moyennes entreprises. Alors, pour ce cas, quels seraient les critères de sélection de ces institutions financières?
Pour nous, en tant que FPM, nous utilisons les intermédiaires financiers pour toucher les bénéficiaires finaux, qui sont les MPME. Donc, on travaille avec les banques, les institutions de microfinance et les coopératives. Les critères restent standards, alignés, indépendamment des segments. Premièrement, d'abord, il faut que l'institution financière soit agréée par la Banque centrale du Congo. Et deuxième critère, l'institution financière doit avoir un système qui nous permet de générer des rapports pour les suivis sur l'utilisation des fonds mis à disposition. Et aussi, l'institution financière doit avoir un auditeur externe agréé par la Banque centrale du Congo. Ce sont des conditions de base. Effectivement, il y a aussi des conditions, des critères opérationnels qui accompagnent un peu l'accès aux institutions financières sur cette ligne de financement.
Les termes de référence de ce projet, Monsieur le DG, renseignent que le FPMSA va travailler aussi avec la cellule de financement des États fragiles, la CFF. Comment cela va se passer concrètement sur le terrain?
La CFF, c'est vraiment la branche technique du ministère des Finances qui, avec le FPM, signe toujours un contrat de transmission. Donc, le contrat de transmission, c'est un contrat qui matérialise la cession de ces dons au profit du FPM SA. Donc c'est vraiment un partenaire clé pour le FPM qui nous accompagne et à chaque fois que nous sommes dans le processus de lever des fonds au niveau de la KfW.
À quel moment, Monsieur le DG, le FPM SA va mettre ce financement à la disposition des bénéficiaires finaux?
Oui, donc c'est une ligne de financement de 20 millions d'euros qui a trois dimensions en tout cas. Là, je parle un peu des caractéristiques. Il y a d'abord la ligne de financement de 15 millions d'euros destinée aux institutions financières. Et puis, il y a un mécanisme de partage des risques rattaché à cette ligne de financement qui est de 4 millions d'euros, c'est-à-dire couvrir des crédits accordés aux MPME jusqu'à 80% des taux de couverture, ce qui est très important. Et puis, il y a une ligne de frais de gestion de 1 million d'euros qui est mise à la disposition du FPM. Et ces trois composantes sont encadrées à travers un contrat et il y a des indicateurs de performance, bien entendu. Et les institutions financières ont l'avantage d'accéder à ces financements et de bénéficier aussi de cet instrument de partage des risques parce qu'il y a un besoin d'accroître l'offre de crédit mais aussi d'améliorer l'appétence des institutions financières au niveau des MPME. Donc à chaque ligne de crédit tirée, l'institution financière peut bénéficier d'une subvention de 25% équivalente à cette ligne au profit des MPME et à taux zéro, bien entendu.
Cette ligne de financement serait la première. Alors, à quand la seconde, Monsieur le DG? Et nous allons terminer par là.
Ah, ok. Une très bonne question. Je crois que on a encaissé la totalité à la date d'aujourd'hui. C'est un contrat qu'on avait signé en décembre 2021. La première tranche a été décaissée le 29 décembre 2023. Et le 29 février 2024, on a y encaissé la dernière tranche. Effectivement, avec la KfW, qui est notre actionnaire de référence en tout cas, on est en train de mettre en place aussi les fonds de garantie, toujours pour soutenir les initiatives au profit des MPME. C'est un fonds de garantie qui aura une capacité de couvertir pratiquement de 60 millions de dollars avec une dotation de 21 millions d'euros. Et cette ligne, on y travaille pour que ça soit accessible le plus tôt possible.
Merci beaucoup.
Ainsi prend fin Écho d'économie de ce soir. Pierre Diachino a été à la prise de son, Dieudonné Nyangassa et Hervé Voka à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.